Les yeux au ciel. Les yeux au ciel avec Anne-Françoise Marie pour découvrir les merveilles des étoiles.
Aujourd'hui, je vous propose de parler d'une constellation ultra connue. Peut-être la plus connue et la plus grande et la plus reconnaissable de toutes, c'est la Grande Ourse. C'est la troisième constellation la plus étendue du ciel. Et certainement un des astérismes les plus connus de l'hémisphère nord. Un astérisme, c'est une figure, formée par des étoiles particulièrement brillantes. Alors ces étoiles n'ont pas forcément, et d'ailleurs la plupart du temps, n'ont pas de lien entre elles, ni de lien gravitationnel, c'est-à-dire qu'elles ne se situent pas au même endroit dans l'univers, ni de lien gestationnel, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas forcément été créées ensemble. Les astérismes ont une forme reconnaissable, mais cette forme, bien reconnue, ne l'est que depuis la Terre. Ce sont donc des vues de l'esprit totalement géocentrées. Les astérismes ne sont pas forcément identifiés à des constellations. Ils peuvent être des sous-parties des constellations, comme c'est le cas pour la casserole dans la constellation de la Grande Ourse, par exemple, ou alors regrouper des étoiles de plusieurs constellations, comme c'est le cas pour le triangle des trois belles de l'été, qui regroupe des étoiles du cygne, de l'aigle et de la lyre. Revenons à notre ours, ou alors à notre chariot ou à notre casserole, appelez-la comme vous voulez. Cette constellation est identifiée dans un très grand nombre de cultures de l'hémisphère nord. Oui, car la Grande Ourse apparaît principalement dans l'hémisphère nord. On dit qu'elle est circumpolaire, elle tourne autour du pôle nord. On en trouve des traces dans les astronomies grecques, égyptiennes, arabes, indiennes, chinoises, japonaises, d'Amérique du Nord et aussi inuites. Ce qui est remarquable, c'est qu'une interprétation se retrouve à peu près partout en Eurasie et en Amérique du Nord. La constellation de la Grande Ourse y est souvent interprétée comme un gibier, soit un ours, soit un cerf, qui est pourchassé ou tué par des chasseurs, qu'accompagne parfois un chien. Alors, comment des populations aussi lointaines, aux deux bouts de la Terre, dans l'Antiquité, c'est-à-dire sans lien entre elles, sans lien de commerce, sans lien culturel, peuvent avoir des similarités aussi fortes? Eh bien, une théorie, c'est que cette constellation très visible a été identifiée et mythifiée dès le paléolithique supérieur, c'est-à-dire autour de 30 000 avant Jésus-Christ, et que l'Amérique du Nord aurait été peuplée par des hommes ayant pour origine l'Asie. Et quand ils auraient migré, ils auraient emmené avec eux leur mythe et donc l'histoire de la Grande Ourse. Selon la mythologie grecque, cette constellation représenterait Callisto. Callisto, c'est une nymphe qui a été aimée de Zeus. Quand Héra, l'épouse jalouse de Zeus, a découvert leur relation, elle a été évidemment outrée par cette offense faite à son honneur. Et elle changea Callisto en ours et son fils Arcas en ourson. Les ours furent condamnés à tourner perpétuellement autour du pôle Nord, jamais autorisés à se reposer sous la mer. La Grande Ourse est à l'origine du nom septentrional. Les Romains appelaient cette constellation Septentriones, c'est-à-dire les sept bœufs de labour, qui tournent toujours autour du Nord. L'ours se dit Arctos en grec, d'où le nom du cercle arctique qu'on donnait au cercle des étoiles circumpolaires toujours visibles. L'astronome Géminos assignait comme limite à ce cercle le pied de devant de la Grande Ourse. Le terme arctique désigne donc la région entourant le pôle nord céleste, mais aussi le pôle nord de la Terre. Selon une légende arabe, la constellation représente le cercueil d'un père suivi par le cortège de ses trois filles en pleurs. Elle le porte depuis la nuit des temps et essaie de rattraper son assassin, qui n'est autre que la petite ours. Le chariot est constitué de sept étoiles très brillantes. Alors, il est à noter que Johann Bayer, qui a écrit le plus grand catalogue d'étoiles, l'Uranométria, au XVIIe siècle, n'a pas nommé les sept étoiles par leur magnitude, mais par leur position, en partant de la casserole. Alors, je vous propose de prendre le même chemin que lui. Au bout de la casserole, vous trouverez Dubé, dont le nom vient de l'arabe Dub, qui veut dire ours. C'est une étoile multiple, composée d'une géante orange et de deux étoiles compagnons. Elle est beaucoup plus loin de la Terre que les autres étoiles de la constellation. Elle est à plus de 120 années-lumière. Mais elle est aussi plus grosse que les autres, à peu près 30 fois le Soleil. Ce qui fait que de la Terre, elle nous paraît à peu près de la même taille, de la même luminosité, et donc on a l'impression qu'elle est voisine des autres étoiles de la Grande Ourse. Merak, quant à elle, se trouve sous Dubé. Son nom est dérivé de l'arabe marak, voulant dire échine, l'échine de l'ours, le dos de l'ours. C'est une étoile un peu plus chaude, un peu plus grande que notre Soleil. Mais même si elle n'a pas de planète autour d'elle, elle est entourée d'un disque de poussière qui pourrait donner naissance à des planètes. Continuons en longeant le bas de la casserole pour trouver Fekda, qui en arabe veut dire la cuisse de l'ours. C'est la dernière étoile de la... qui veut dire la cuisse de l'ours. La dernière étoile de la casserole est la moins lumineuse des sept. Elle s'appelle Mergrez, ce qui signifie en arabe l'attachement, sous-entendu la queue de l'ours. Si on continue la queue de la casserole, on rencontre Aliot, l'étoile la plus brillante de la constellation, qui a la particularité de posséder un champ magnétique important, 100 fois plus grand que celui de la Terre, qui sépare ses différents éléments et provoque des fluctuations dans son spectre. C'est-à-dire que quand on l'observe, on voit des variations dans son spectre dues à la séparation des éléments par le champ magnétique. On rencontre ensuite au milieu de la queue de la casserole Mizar et Alcor, qui font partie d'un système de 5 étoiles. Mizar et Alcor, ce sont deux étoiles proches, mais on peut les distinguer à l'œil nu si on a une bonne vue et un environnement particulièrement sombre. N'hésitez pas à les pointer à la jumelle ou au télescope pour les voir vraiment se différencier. La pointe de la queue de la casserole est constituée par Alcaïde, aussi appelée Benetnash. Ces deux noms viennent de la phrase arabe qui veut dire « le chef des filles du cercueil ». Elle est aussi plus loin de la Terre, elle est à 100 années-lumière. Sa température de surface est de 20 000 Kelvin, c'est une des étoiles les plus chaudes pouvant être observées à l'œil nu. Il est à noter que la constellation ne comporte pas que ces 7 étoiles brillantes. On peut aussi remarquer les orteils de la Grande Ourse situés le long de la frontière sud, 3 couples d'étoiles, qu'on appelle aussi les sauts de gazelle. De par sa taille et sa visibilité, la Grande Ourse est très utilisée pour se repérer dans le ciel. Le repérage certainement le plus connu est utilisé pour situer l'étoile polaire. Pour cela, prenez le bord de la casserole à l'opposé de la queue. Ce sont les étoiles Dubé et Merak. On les appelle aussi les gardes. Si vous prolongez 5 fois le segment Merak-Dubé, vous tombez sur une étoile très brillante, Polaris, l'étoile polaire. Mais ce n'est pas le seul repérage qu'on peut faire avec la Grande Ourse. Par exemple, si on prolonge l'arc de cercle formé par sa queue, sur un angle d'environ 45 degrés, on arrive sur Arcturus, une étoile très brillante située dans la constellation du Bouvier. Et si vous prolongez cet arc d'encore 45 degrés, vous arriverez sur Lépi, l'étoile la plus brillante de la constellation de la Vierge. Le centre de cet arc est occupé par Denebola, de la constellation du Lion. Arcturus, Lépi et Denebola forment un grand triangle équilatéral. Mais la constellation du Lion peut être retrouvée plus simplement quand on sait la reconnaître. En fait, le Lion est couché sous l'arc Grande Ourse, quand on regarde le chariot à l'endroit. A l'inverse, quand la Grande Ourse est suffisamment proche de l'horizon, vers l'automne, on peut voir la constellation de Pégase. Pour la repérer, vous prolongez Merak-Dubé au-delà de Polaris, deux fois plus loin encore, et vous tombez sur Alpha et Beta Pégasi. Cette constellation appartient à une formation qui ressemble au chariot de la Grande Ourse, mais en beaucoup plus grand, qui lui serait symétrique, de symétrie centrale, par rapport à l'étoile polaire. Cette constellation est encore plus facile à repérer avec Cassiopée. Dans la Grande Ourse, on ne trouve pas que ces 7 étoiles. En fait, la constellation désigne une partie du ciel, et tout ce qui est dans la profondeur du ciel de cette zone est dans la Grande Ourse. Il y a par exemple deux galaxies, M81 et M82. Elles ont toutes les deux été découvertes par l'allemand Johann Bode en 1774. M81 est très proche de la Voie lactée, seulement à 12 millions d'années-lumière. Elle n'est pas vraiment observable à l'œil nu, mais elle peut être vue aux jumelles. Dans un télescope de 114 mm, le noyau apparaît comme lumineux entouré d'un halo diffus. Si vous avez un gros instrument, 350 mm, et des bonnes conditions d'observation, vous pourrez déceler les bras spiraux de cette galaxie. Lorsqu'on regarde le ciel, on mesure l'éloignement des astres en distance angulaire. Et là, je vais vous donner une petite astuce sur comment apprivoiser facilement cette mesure à l'œil nu. Alors, il est toujours bon de le rappeler, lorsque nous mesurons l'écart entre deux étoiles dans le ciel, nous ne faisons qu'évaluer leur distance angulaire vue de la Terre. Il ne s'agit pas de l'éloignement réel des astres. Par exemple, la Lune peut parfois avoir l'air proche de Jupiter, alors qu'en réalité, la distance entre ces deux astres est très très grande. Il en est de même pour les étoiles. Souvenez-vous que nous, on voit le ciel en deux dimensions, alors que l'univers est en trois dimensions. Ceci précisé, revenons à notre distance angulaire, qu'on appelle aussi distance apparente. Dans le ciel, c'est la façon la plus commode pour mesurer l'éloignement de deux étoiles, ou de deux astres. La distance angulaire, c'est l'angle formé entre les deux droites qui relient ces objets et vous. La distance angulaire se donne habituellement en degrés, minutes et secondes. On mesure aussi le diamètre des astres de la même façon. On parle alors de diamètre apparent. La mesure angulaire fonctionne aussi bien à l'horizontale, à la verticale, dans toutes les directions. Rappelons-nous que le tour complet de l'horizon fait 360 degrés. La distance entre l'horizon Et le zénith, au-dessus de notre tête, c'est un angle droit, donc 90 degrés. Chaque degré est divisé en 60 minutes d'angle. Chaque minute est divisée en 60 secondes d'angle. Mais lorsque nous levons le nez, nous ne disposons que rarement d'un rapporteur ou d'un sextant pour faire les mesures. Alors à l'œil nu, je vous propose d'utiliser ce qui est toujours à notre disposition, notre main. Alors disons-le immédiatement, cette méthode est un petit peu approximative, elle va dépendre évidemment de la morphologie de l'utilisateur. Mais comment la mettre en œuvre ? Eh bien, rien de plus simple. Vous sortez sous un ciel étoilé, vous tendez le bras et vous regardez votre main. Il vous faut mémoriser les différentes façons de la positionner et les différentes mesures angulaires associées à chaque position. On va très facilement pouvoir mesurer des distances de 1, 5, 10, 15 et 20 degrés. La chose amusante, c'est que les étoiles de la constellation de la Grande Ourse sont disposées de telle façon qu'on peut vérifier sur elles 4 mesures angulaires que permet d'identifier notre main. Alors, c'est à vous. La hauteur de la casserole, c'est-à-dire la distance entre les deux bords, c'est à peu près 5 degrés, c'est-à-dire la taille de votre pouce quand vous avez la main tendue, la longueur de votre pouce quand vous avez la main tendue. La largeur de la casserole, c'est 10 degrés, c'est-à-dire à peu près la taille de votre poing fermé. Vous irez du bout de la casserole à la première étoile à l'intérieur du manche avec le pouce tendu et la largeur de votre main. Ça, c'est 15 degrés. Et vous irez jusqu'à l'étoile suivante sur le manche en ouvrant toute votre main. Ça fait à peu près 20 degrés. La largeur de votre pouce, c'est à peu près 2 degrés, celle de votre petit doigt, à peu près 1 degré. Validez ces mesures pour savoir si ces approximations correspondent à la taille de votre main, et éventuellement corrigez-les. Alors, vous allez me dire, c'est très marrant, mais ça sert à quoi en fait ? En fait, c'est un moyen facile à mettre en œuvre pour mesurer la hauteur d'un astre au-dessus de l'horizon, pour mesurer l'éloignement entre une planète et la Lune. Ça vous sera utile quand, lorsque vous allez repérer dans un éphéméride astronomique, une chose à observer. On vous annonce par exemple la hauteur de Jupiter au-dessus de l'horizon. Et si jamais il fait pas encore très noir, que vous avez du mal à le repérer, utilisez vos mains et vos doigts pour savoir dans quelle zone regarder et pouvoir repérer plus facilement l'événement intéressant.